Nous sommes sur Aline FM 93.1. Dans la vie est un roman. Et ce matin, nous allons vous parler de nourriture et de clichés littéraires. Je vais passer la parole à un auteur, Marie-Aline, et Alain Marilio, qui a eu la gentillesse de venir pour l'interviewer sur son ouvrage qu'elle a écrit. Et qui concerne donc la nourriture. À toi, Alain.
Merci Yves. Bonjour Marie-Hélène. Alors vous avez un parcours, j'ai un peu regardé à droite à gauche, à la fois riche et varié. Je vais le résumer très, très incomplètement sûrement, et si je me trompe, vous me rectifierez. Donc vous avez fait plein de choses. Vous avez été accessoiriste pour le cinéma, vous avez été habilleuse à l'Opéra Garnier, vous avez tissé, vous étiez tisserande au Maroc, c'est vrai, donc jusque-là c'est vrai. Et puis j'arrive à votre métier de journaliste à partir de 2005. Et vous avez succédé au légendaire François Simon, qu'on ne présente plus, comme critique gastronomique. Alors à ce moment-là, il était à M. Après, je crois, pas mal d'années passées au Figaro. Alors là, vous êtes devenue donc chroniqueuse gastronomique ou critique gastronomique. Oui. Tout en menant aussi des enquêtes, enfin en faisant du travail journalistique plus classique, en particulier sur les questions du harcèlement en cuisine qui sont ouais. Qui se développent,
qui sont là depuis très longtemps, mais dont on parle
depuis moins longtemps.
Bon, grâce au mouvement MeToo, on a pu commencer à délier les langues et la parole s'est un petit peu ouverte, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Enfin, voilà, j'ai eu l'occasion de travailler sur deux enquêtes effectivement sur ce sujet dans le milieu de la gastronomie et étrangement ça n'a pas pris, c'est-à-dire qu'on pensait que ça allait peut-être commencer à développer le mouvement, mais ça se fait de façon très souterraine encore aujourd'hui.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a encore pas mal de choses qui sont notoires, mais pas dévoilées.
Exactement, oui, qui ne sont pas rendues publiques.
C'est ça, je pense en effet qu'un certain nombre d'affaires pourraient éclater, mais de manière un petit peu inattendue ou selon un tempo un peu aléatoire, je ne sais pas.
Alors, il y a des associations qui travaillent auprès des cuisinières et des cuisiniers dans les restaurants et dans les écoles hôtelières aussi pour sensibiliser à la question des violences en cuisine. Et on peut espérer que la nouvelle génération se laissera moins faire que celle qui est déjà embrigadée, puisque dans les cuisines, il y a des brigades. Mais le milieu de la gastronomie est aussi un milieu très silencieux où l'omerta, en fait, joue un rôle assez pesant.
Et où la notion d'hiérarchie est extrêmement présente.
Extrêmement respectée.
Oui, c'est ça.
Et,
avec des contre-exemples des fois très, très éclairants, mais qui sont sans doute assez rares, je pense. Enfin, des endroits où peut-être une autre culture a déjà éclos.
Oui. Heureusement. Heureusement, il y a des poches de résistance à la hiérarchie. Un peu comme partout. Et ces endroits-là peuvent devenir des endroits refuges. Ouais. Même pour certains cuisiniers, jeunes cuisiniers, qui vont aller se réfugier dans des restos où il est notoire aussi que le chef est bienveillant.
Bon, on en saura peut-être bientôt plus. Je ne sais pas. Donc vous avez travaillé au Monde pendant
4 ans.
Voilà, c'est ça. Et là, vous venez de changer, donc c'est ce que vous m'avez appris l'autre jour. Et vous êtes passée.
Alors là, maintenant, je suis rédactrice en chef adjointe digitale de Femmes Actuelles et Cuisine Actuelle. Donc c'est vraiment complètement un autre métier. J'ai voulu en fait explorer à la fois l'univers digital de la presse, parce que je le connais pas du tout et que c'est l'avenir, très certainement. Enfin, c'est déjà le présent, d'ailleurs. Et aussi, j'ai été très intéressée de voir comment marchaient les mass médias. Parce que jusqu'à présent, moi, j'ai toujours cultivé la liberté d'être pigiste, d'être indépendante et de faire les choses à mon rythme et à mon goût. Et là, je me suis dit, bon, l'occasion m'est donnée d'aller explorer comment ça se passe dans un énorme groupe de presse qui vient d'être acheté par Vivendi, donc Bolloré derrière. Comment ça fonctionne, comment la transition se fait. Pour l'instant, ça fait quelques semaines et je suis en observatrice, enfin observatrice actrice aussi, notamment là pour travailler sur la qualité éditoriale des sites internet de Femmes Actuelles et Cuisine Actuelle. Donc c'est c'est une mission que je trouve noble et honorable, dans le sens où on parle, en fait, à un lectorat très populaire. Chose que j'ai jamais eu l'occasion de faire auparavant, parce que quand on travaille pour l'EM, on écrit pour une population qui est déjà assez aisée. Et dans les groupes précédents, enfin, j'ai notamment travaillé à Condé Nast pour GQ, Glamour, Vanity Fair, et clairement, on est dans un milieu journalistique CSP++. Donc j'explore.
Et les sujets sur lesquels vous allez, alors peut-être écrire aussi ou seulement organiser?
Alors là, j'écris pas. C'est vraiment de la rédaction en chef.
Mais ça sera lié à la cuisine, mais plutôt sous un angle familial ou
Il y a plusieurs lignes. Bon, cuisine actuelle est vraiment tournée vers les personnes qui adorent cuisiner, qui sont passionnés de cuisine, donc il y a un côté plus expertise.
Ouais,
donc bon, bah là, c'est vrai que je m'y retrouve un peu. Ouais. Après 15 ans passés dans la cuisine, il y a une petite direction que je peux donner. Et du côté de Femme Actuelle, c'est vraiment la cuisine familiale, aider la femme au quotidien alors, je vais pas parler que de cuisine. Enfin, on parle pas que de cuisine sur Femme Actuelle. On touche à tout. On touche aux questions de pénurie, d'économie. Enfin, on traite l'actualité aussi, la mode, la beauté, mais tout ça sous un angle vraiment. En tous les cas, c'est ça que j'aimerais insuffler maintenant. On est là pour soutenir la femme qui a entre 35 et 55, 60 ans. Qui vit dans un milieu populaire, essentiellement rural, et qui à qui finalement peu de médias parlent. Et on est là pour la soutenir au quotidien, lui donner des petites astuces pour économiser de l'énergie alors que l'énergie va exploser, que le prix de l'énergie va exploser, des astuces comme ça de bonne copine.
Et il sera plus question de resto ou si quand même un peu
Alors pour moi dans mon quotidien, non, il n'est déjà plus question de resto et j'en suis, je dois dire,
oui,
libérée, soulagée.
Ah bon,
soulagée. Non, contre toute attente peut-être. Et en revanche, il va plutôt être question de recettes partagées par des chefs.
Ah oui, il restera
voilà.
Peut-être cet angle.
Sur les restos en eux-mêmes, j'ai quelques idées qui sont pour l'instant sur le papier et pas du tout mises en œuvre.
Très bien. Alors, pour en venir au bouffeur anonyme, puisque c'est le titre de votre livre, alors c'est un livre ultra contemporain, voire dystopique. Il est futuriste dans une certaine mesure, on peut dire qu'il est futuriste, mais pas tant que ça finalement. C'est par glissement, on est encore sur des horizons relativement proches. On va commencer par le président de la République. D'abord, j'aimerais que vous nous disiez son nom. Enfin, je sais pas comment on
dit son
nom.
Oui, alors son nom se prononce malgré le fait qu'il ait enlevé toutes les voyelles de son nom. Il s'appelle Nbedosp.
Oui, pouvez-nous le...
Nbedosp.
D'accord, c'est comme ça qu'on dit. Et alors, on pourrait faire des petites observations amusantes sur la manière dont son nom est construit, mais je pense que... Je ne sais pas si ça a déjà été dit ou évoqué, ou si... ça peut sauter aux yeux, mais je ne sais pas si...
Dites-moi quelle est votre théorie, parce que moi, évidemment, il y a un cheminement pour arriver à ce nom de président.
Moi, j'étais parti du président actuel, puis j'ai fait une petite translation, comme c'est un petit peu ma manière de procéder.
donc vous avez tout à fait compris ma manière de procéder également. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à écrire ce livre il y a maintenant 7 ans.
Ah oui.
À l'époque où Emmanuel Macron était ministre, il n'avait pas encore lancé En Marche.
Ah oui, d'accord.
Et en fait, il se trouve que par relation, je connais des gens qui ont travaillé avec lui. C'était un personnage qui m'intéressait beaucoup, qui m'intriguait beaucoup. Donc, je posais beaucoup de questions sur mais comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il est, etc. Et il est devenu un personnage de mon livre jusqu'au moment où il a monté En Marche et où je me suis dit, c'est pas possible. En fait, s'il monte En Marche, il va devenir président. Et il est hors de question que dans mon livre, le président... inventé soit le président réel. Et c'est là où j'ai opéré cette petite translation qui vient d'un jeu d'enfant, en fait. Quand on fait des chasses au trésor ou qu'on s'invente qu'on est enquêteur, espion, etc., on fait des codes et simplement, c'est... si je me trompe pas, c'est bien A plus 1.
Oui, vous ajoutez 1.
On ajoute 1 à chaque lettre et on obtient...
Oui, oui, il n'y a pas, de... Et, ah oui, s'il était resté, s'il n'était pas devenu président, le personnage, ce serait appelé Macron ?
Ben, je ne sais pas, je pense que j'aurais attendu peut-être juste avant l'impression du livre de voir où il en était. Et s'il était devenu un personnage trop présent dans le monde politique, je pense que j'aurais changé.
D'accord. Alors peut-être vous pouvez nous raconter un peu le livre avec vos mots, et puis on reviendra après sur certains aspects. Il y a plusieurs angles.
Oui, il y a pas mal de fils qui sont tirés dans ce livre. Alors, basiquement, c'est l'histoire d'un critique gastronomique j'ai imaginé ça dans une vingtaine ou trentaine d'années à peu près. Et il vit dans une société où le bien-être est vraiment... imposé par le gouvernement à la demande du peuple. C'est-à-dire le peuple a vraiment voté pour N'Bedospe parce que N'Bedospe proposait la juste mesure en toute chose et que la population française ressentait le besoin d'être vraiment réprimée dans tous les usages, que ce soit l'usage de la technologie, donc par exemple les connexions Internet. Enfin, il est recommandé de pas regarder les réseaux sociaux plus de 3 fois par jour. La consommation alimentaire, exemple, la viande est prescrite par les médecins et on peut l'acheter chez le boucher grâce à sa carte vitale. Voilà, Thomas, qui est le personnage principal, vit dans ce monde et il est bien dans ce monde. Il fait son travail de critique gastronomique qui est ni plus ni moins en fait être le relais de la parole gouvernementale auprès de ses lecteurs en disant si vous voulez coller au bien-être imposé par le gouvernement, allez manger dans tel restaurant vegan ou dans tel restaurant à indice glycémique bas, etc. Et force est de constater qu'il s'ennuie. Et ça, il le ressent vraiment très profondément dans sa chair. Il s'ennuie jusqu'au jour où il se promène. Alors, il se promène tous les jours dans Paris. Paris est aussi, je pense, un personnage du livre. Enfin, j'avais vraiment envie que la ville soit présente. Et il se promène beaucoup dans son quartier. Et un jour, il voit un groupe de paroles dans un fast-food et qui est animé par un ancien chef qui a fait beaucoup de télé. Il reconnaît le chef et il comprend, en écoutant à la porte, que en fait, c'est un groupe de paroles de bouffeurs anonymes qui ont des déviances alimentaires, qui aiment manger beaucoup de gras, par exemple, ou qui aiment manger toute la journée, ou au contraire, qui vont être orthorexiques, c'est-à-dire qui pèsent tout ce qu'ils mangent, etc. Et là, il se dit, mais je tiens enfin le sujet de ma vie, je vais arrêter de m'ennuyer. Je vais faire cette enquête, je vais infiltrer ce groupe de bouffeurs anonymes et je vais faire le papier de ma vie. Il le vend à son rédac-chef et en fait là sa vie bascule.
Et ces bouffeurs anonymes, comme sur pas mal d'autres sujets, votre livre conserve une certaine ambiguïté sur à la fois leur finalité, leur rôle, est-ce qu'on peut dire que ce sont des repentis ou après tout ils n'ont pas l'air de, enfin.
Alors ils aimeraient, je crois qu'en fait, vous parlez d'ambiguïté, en fait, je pense que l'ambiguïté est humaine et c'est même, enfin, je trouve ça assez rassurant, les personnes qui sont jamais complètement sûres de ce qu'elles veulent ou de ce qu'elles cherchent et qui tâtonnent. Pour moi, c'est une des beautés de la nature humaine. Et là, le groupe de bouffeurs anonymes, ils sont là, ils sont pleins de bonne volonté, ils ont envie de coller à la ligne gouvernementale, ils ont envie d'être intégrés dans cette société, ils ont envie d'être comme tout le monde. Mais ils y arrivent pas vraiment. Et le fait de se regrouper alors qu'ils pensaient que ça pouvait les aider va plutôt créer une dynamique inverse. Et effectivement, on peut se demander à un moment du livre s'ils sont pas plutôt en train de devenir un groupe rebelle.
C'est ça, oui. C'est là qu'est l'ambiguïté. Alors, je parlais d'ambiguïté parce que si on pense aux alcooliques anonymes, on a le sentiment que ça marche mieux.
Oui, clairement. Mais en fait, justement, dans le groupe des bouffeurs anonymes, il y a un certain nombre de règles qui sont vraiment imposées dans les groupes de parole des alcooliques anonymes qui ne sont pas respectées. Notamment, l'anonymat, respecté. Le chef Louis qui anime ce groupe de parole... ne peut pas s'empêcher d'être chef, On en parlait tout à l'heure, justement. Voilà, donc il ne peut pas s'empêcher de commencer à infuser ses idées auprès de son groupe.
Un petit côté sectaire.
Et il y a un petit côté sectaire qui va se révéler, ouais.
Alors, je reviens un petit peu en arrière, parce que vous avez dit que vous aviez commencé l'écriture du livre il y a 7 ans, c'est ça? Mm-hmm. Donc, c'était bien avant le Covid, en particulier.
C'était bien avant le Covid, ouais.
Et pourtant, on a le sentiment que le Covid a dû vous inspirer d'une manière ou d'une autre.
Alors, en fait, il y avait des choses qui étaient déjà écrites dans ce livre et qui sont devenues réelles pendant le Covid. Mm-hmm. Et bon, après avoir essuyé un petit choc, parce que je me suis dit, OK, alors j'ai imaginé des trucs qui étaient quand même...
Vous êtes fait rattraper par pas mal... Enfin, par l'actualité.
Je me suis fait rattraper par l'actualité, ouais. Et après, du coup, j'en ai joué. C'est-à-dire que j'ai rajouté 2-3 trucs, 2-3 éléments qui font que ça s'inscrit encore plus dans l'époque contemporaine, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, par exemple, il y a une fête tournante. Enfin, il y a l'idée de pas inviter plus de, je crois, 6 personnes en même temps, etc. Ça, c'est des choses qui existent depuis le début du livre, en fait. Mmh. Et bon, 2020, j'avoue que j'ai eu des frissons, un petit peu des frissons d'horreur. Je me dis, j'espère que ça va pas aller jusqu'au bout parce que le livre peut avoir, on peut le voir de façon tragique aussi, hein, ce roman.
Les couleurs sont changeantes, en fait, sont un peu, ambiguës elles aussi, et par exemple votre personnage principal, le narrateur, enfin qui n'est pas toujours narrateur mais qui l'est à certains moments, il est lui-même écartelé parce que donc il a cette carrière plutôt médiocre, il a ce sujet assez intéressant pour lui, et puis d'autre part il a aussi une relation avec ce président puisqu'il fait aussi des papiers, enfin il se prépare des papiers sur le président, et l'approche est là encore un peu moitié fascinée, moitié je ne sais pas.
Mais oui, il est vraiment tiraillé. Il est tiraillé parce que en fait, il a un besoin de reconnaissance très fort, de reconnaissance sociale très forte. Enfin, moi, je trouve que les bouffeurs anonymes parlent de solitude sociale. Bon, c'est ma lecture, j'imagine. Mm-hmm. Mais c'est un homme qui au début de l'histoire se sent très seul, et il se sent comme recueilli par le groupe des bouffeurs anonymes, il se sent faire partie de ce groupe, et en même temps le fait qu'il ait proposé une enquête sur ce groupe de parole fait que son rédacteur en chef se dit voilà un journaliste de qualité, on peut peut-être le mettre sur des sujets importants, et donc il l'envoie faire ce papier exclusif auprès de Nbedospe sur le régime alimentaire de Nbedospe, qui est justement un indice glycémique bas, pH neutre, etc., pour éviter de se mettre en colère et tout. Donc Thomas va aller documenter le régime alimentaire du président. Et je dirais même, il y a une ambiguïté supplémentaire, c'est que ce président quasi dictatorial, il a quelque chose de fascinant, parce qu'en même temps, c'est quelqu'un qui fait de la méditation en pleine conscience, qui est à l'écoute du monde et de son environnement, qui sent quasiment des glands tomber dans le jardin de l'Élysée. Donc, il y a quelque chose de fascinant. Et Thomas, il est en perte de repère totale. Donc, il va se raccrocher à ce qui lui fait le plus de l'œil, et il a quand même un désir de pouvoir qu'il le perdra.
C'est ça. Et en ce sens, est-ce que Thomas n'est pas vraiment très... un modèle assez répandu dans ce monde, quoi. Oui.
Vous l'avez dit.
Voilà.
Mmh. Oui.
Et vous avez dit que Paris est un personnage de livre. Alors c'est vrai que c'est pas exactement le Paris que l'on connaît. Enfin, c'est presque lui, mais 2-3 choses ont changé.
Alors moi, je dirais que c'est presque elle. Je sais pas pourquoi,
c'est presque elle. Oui, mais sur Paris, on a toujours ces deux possibilités. Mais disons, c'est presque elle. Ouais. Et en particulier, on a une végétation qui traduit le réchauffement. Mais c'est très graphique. Moi, j'ai une vision du boulevard Blanqui que je connais bien avec ce métro aérien et cette végétation. Alors, on se croirait un peu aussi dans... Et je pense que c'est une référence que vous citez peut-être même, je ne me souviens plus, du dessinateur qui travaille avec Descola. J'imaginais
c'est... Ah oui, de Alessandro Pignotti.
Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi, j'imaginais un dessin de lui. Enfin, ça me semblait
d'accord,
bien cadré
ouais.
Avec ses visions d'un Paris légèrement revu.
Ouais, légèrement tropicalisé.
C'est ça, oui.
Oui.
Et finalement, et aussi beaucoup moins peuplé, il faut le dire, puisque toute cette évolution a conduit à...
à un dépeuplement urbain, mais à aussi une baisse des naissances.
Alors cette ville finalement, et là encore on est dans cette ambiguïté qui à mon avis plonge, enfin dans lequel le livre plonge, cette ville est-elle désirable, agréable, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est vrai que j'ai pas imaginé ce livre en termes de désirabilité. Il me semble que c'est une possibilité. Est-ce que on a envie de vivre ce genre de possible? Je pense que c'est à chacun de répondre. Enfin, comme beaucoup de questions qui sont soulevées dans le livre, j'apporte pas de réponse en fait, parce que j'estime que le lecteur est assez futé pour se faire sa propre idée. Je peux vous dire, évidemment, c'est simplement, j'ai tiré le fil du réchauffement climatique et j'ai imaginé un Paris tropical, enfin peut-être pas tropical, mais en tous les cas avec une végétation luxuriante, mais aussi une place de l'étoile complètement aride, sèche, enfin gariguesque, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais voilà, avec des genêts, le sirocco, du sable déposé un peu partout et tout ça. Je ne sais pas si c'est désirable. Après, à écrire, pour moi, c'était très heureux parce que ma famille, en fait, je viens de Tahiti, en fait. Enfin, une partie de ma famille vient de Tahiti. Moi, j'ai pas grandi là-bas, mais j'ai énormément voyagé là-bas. Et je pense que ce Paris tropical, en fait, a été écrit à partir de souvenirs d'enfance, d'odeurs et de moiteur et de végétation. J'ai toujours rêvé, parce que c'est compliqué d'aller d'un bout à l'autre du monde pour réunir sa famille, donc j'ai souvent rêvé que Paris soit à Tahiti. Je l'ai fait dans le bouquin, si on peut pas le faire dans un livre, où est-ce qu'on le fait, quoi.
C'est ça, vous avez fait le lien avec pas mal d'aspects de votre vie.
Aussi.
Que ce soit les origines familiales ou le métier.
Ou le métier.
C'est vrai que j'avais relevé une phrase sur Thomas, et Thomas écrit « Je suis là pour dire aux gens ce qu'ils doivent manger ». Bon, ça c'est un peu ce que vous avez fait. « Je suis un prescripteur à la solde du gouvernement ». Bon, ça c'est pas ce que vous avez fait. Mais c'est une projection et puis un questionnement. Et à partir du moment où vous travaillez pour dire effectivement aux gens s'il convient d'aller ou non dans tel ou tel lieu. Je ne sais pas d'ailleurs, parce que j'ai lu vos chroniques en général, on savait si vous aviez aimé ou non. C'est comme un peu le but de l'exercice dans un.
Mais je suis en train d'essayer de me souvenir. Oui, j'ai encore que. Pardon, ouais. Allez-y.
Non, mais j'essaie de me souvenir maintenant au moment où j'en parle si. Oui, elles étaient engagées, vos chroniques. C'était pas.
Oui, elles étaient engagées. Après, j'ai aussi cultivé pas mal l'ambiguïté en fait dans mes chroniques, et je dois dire que quand on m'a proposé de reprendre cette page dans l'EM, la première chose que j'ai dite, c'est quel est l'intérêt d'avoir mon avis en fait. Est-ce que aujourd'hui vraiment on a besoin de juger un restaurant, enfin, est-ce qu'on a besoin de juger, en fait, tout court? C'était un petit peu ça le fond de ma question. Et j'ai commencé par écrire, en fait, des petits textes. Donc là, pour le coup, c'était de la chronique et pas de la critique. J'ai commencé par écrire des petits textes où je me mettais à la place de quelqu'un dans le restaurant. Et j'adoptais son point de vue pour raconter le restaurant. Donc ça pouvait être du point de vue de la serveuse, du point de vue du plongeur, du point de vue du cuisinier, du point de vue d'un petit monsieur qui mangeait là tout seul et qui avait l'air d'avoir ses habitudes. Alors il y avait une part de projection, il y avait une part d'imaginaire en fait, c'était un texte un petit peu littéraire. Je l'ai fait par exemple au travers des yeux d'un chat qui était dans le restaurant et qui raconte le resto comme ça. Et en me disant que c'était plus important de donner à vivre une ambiance, un goût, une texture, que de sanctionner, en fait. Et c'est vrai que j'ai jamais été très à l'aise dans le rôle de critique gastronomique. C'est vrai que j'aurais plus tendance à dire que j'ai été chroniqueuse gastronomique, parce que j'avais plus envie de raconter une histoire autour d'un restaurant que de dire ça oui, ça non. Après, il y a des histoires forcément qui sont teintées. Et il y a des gens que je ne loupe pas quand il s'agit de repas à 300 euros, par exemple. que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent économiser pendant un an pour s'offrir un repas en amoureux dans un endroit soi-disant réputé parce qu'un grand chef de la télé ou pas a décrété que son repas valait tant. C'est mon devoir, par contre, de dire bon bah ok, vous allez peut-être lâcher 300 balles, mais voilà ce qui va se passer. Donc voyez si ça convient à ce que vous attendez pour 300 euros quoi.
Oui, je suis très content de vous entendre dire ça. Et je crois que vous aviez réagi pas mal à la transition qui s'était faite au Plaza quand Monsieur Ducasse a été
quand Jean Humbert a repris derrière Ducasse, ouais j'étais, enfin après je pense que tout le monde, enfin dans ce petit milieu de du journalisme gastronomique, tout le monde était assez curieux de voir comment une adresse aussi huppée que le Plaza allait être reprise par un jeune homme de 40 ans et j'étais aussi curieuse que les autres et je peux dire que j'ai été profondément déçue, parce qu'on se dit, bon, bah, que Ducasse fasse, enfin, ampoule tout. Bon, bah, voilà, c'est Alain Ducasse. Il est là depuis très longtemps et c'est lui qui a instauré les codes qu'on vit aujourd'hui. Mais qu'un garçon de 40 ans arrive et fasse encore pire, bah, la France va dans le mauvais sens, quoi.
Oui, et je crois pas que la profession était tellement de cet avis. Enfin,
non, on était deux. Il y avait Stéphane Durand-Soufflot, qui est aussi chroniqueur judiciaire et qui a une chronique dans le Figaro. Ouais. On était les deux seuls à avoir émis des doutes sur la pertinence de ce que Jean Humbert proposait au Plaza. Pareil, ça en dit long sur l'état d'esprit de la France.
Oui, une certaine.
Disons que, enfin, pour être plus clair, Jean Humbert met à l'honneur vraiment la gastronomie française, la plus bourgeoise et la plus chère, avec des produits très luxueux que les gens d'aujourd'hui peuvent pas se payer, sauf l'élite de l'élite. Bon, bah, et tout ça, enfin, en plus, il a ouvert pendant la campagne électorale des présidentielles, à un moment où l'extrême droite, enfin, j'ai écrit là-dessus aussi d'ailleurs, où l'extrême droite revenait vraiment en force en s'appropriant l'alimentation et la gastronomie comme vraiment outil de communication politique. Donc, en fait, moi, j'étais en train de travailler sur ces questions-là. Je vais au Plaza, je mange ça, je reviens, je me dis « Wouhou ! Ok, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer au deuxième tour ? On aura qui ?» Bon, voilà.
C'est ça, et c'est aussi, ça a été effectivement aussi un de vos sujets, la gastronomie, ou même surtout la nourriture en France en particulier, mais partout, je pense, est un sujet forcément politique. Que l'on pense à la gastronomie, donc à la préparation, ou bien même aux produits de base et à ce qu'ils peuvent contenir en matière de pesticides, par exemple. Donc ça, c'est un sujet que vous avez traité. Et à l'époque, c'était effectivement vraiment l'extrême droite qui s'emparait de ces sujets. Mais depuis, on peut dire que le débat a évolué. Alors
Vas-y, continue.
Je me demandais si on peut dire que le débat a envahi tout l'échiquier, parce qu'aujourd'hui, à gauche aussi, on a des débats sur la viande.
Mais c'est très bien que le débat envahisse tout l'échiquier, c'est mieux même. Enfin, bon, je dirais, heureusement que tout le monde se saisit de la question, parce que c'est clairement c'est une question extrêmement populaire et c'est une question qui doit être traitée par tous les bords politiques.
Et pour autant, peut-on dire qu'elle soit vraiment traitée ? C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on a vu ressemble pas plus à de l'agitation verbale qui a vraiment une analyse des tendances, enfin des choix qu'il y aurait à faire éventuellement. On a en France une énorme production agricole. On sait qu'il y a plusieurs natures de production qui sont en concurrence, je ne sais pas si on peut dire en concurrence, mais en tout cas entre lesquelles l'État pourrait avoir à jouer un rôle d'arbitre, devrait jouer un rôle d'arbitre. Est-ce que vraiment, des différents débats qu'on a eus à la fête de l'UMA ou avant, est-ce qu'on peut dire qu'on a ne serait-ce qu'effleuré ces sujets ? Je pose la question d'une manière un peu biaisée.
Si je disais non. Moi, il me semble que l'alimentation a été utilisée comme un outil de communication. Et c'est bien parce que ça pose les premiers termes d'un débat. qui ensuite, je l'espère, sera approfondie. Il y a des gens qui œuvrent sur le terrain pour faire valoir leur avis politique et agricole.
Ah oui, ça oui.
Heureusement, ce qui serait bien, c'est qu'ils soient plus entendus. Maintenant, j'ai l'impression que là, de toute façon, le gouvernement, au niveau national, au niveau européen, est rattrapé par les différentes crises et les pénuries qui nous frappent, et que, en fait, ils vont être obligés d'inventer des nouvelles solutions. Et aujourd'hui, c'est assez frappant quand on entend Macron parler de sobriété. Ça fait sourire, et en même temps, très franchement, tant mieux. Tant mieux que ça émerge enfin et que éventuellement ce soit appliqué.
Dans l'hypothèse très optimiste où ça serait suivi d'une quelconque substance, il faudrait en effet s'en réjouir, je pense.
Voilà.
Alors vous dites dans le... Vous l'avez dit dans une interview, je ne sais plus où. Mon sujet dans le livre n'est pas la gastronomie, mais plutôt celui de notre rapport à l'autorité. C'est une phrase que je ne sais pas si vous en souveniez, parce que des fois on dit des choses.
Alors, je me souviens pas où est-ce que je l'ai dit, mais oui. Je sais que je le pense.
Oui, et justement, enfin, parce que cette figure présidentielle un peu hors sol, et qui néanmoins demeure très fascinante, et puis votre personnage, le narrateur, qui est perdu... Est-ce que c'est oui. Ils sont l'illustration de ce rapport au pouvoir qui est devenu un peu illisible?
Oui, et je dirais même aussi le chef Louis qui anime le groupe de parole des bouffeurs anonymes,
oui,
c'est
oui,
aussi
oui.
Un bon représentant du pouvoir et de l'autorité. J'ai pas vraiment de réponse à apporter à cette question. Ce qui est sûr, c'est que j'ai voulu explorer notre rapport à l'autorité dans Les Bouffeurs Anonymes et surtout comment notre animal intérieur, qu'on ne cesse d'étouffer, réagit sous le joug de l'autorité.
Oui, c'est bien présent dans le livre. Je crois qu'on arrive au...
On arrive au bout, mais notre autre invité n'est pas arrivé. Mais donc, je vais te laisser désannoncer. Après, je vais improviser sur le dictionnaire des clichés littéraires.
Ah, d'accord.
Je vous invite à participer avec moi.
Tu fais la transition.
Vous pouvez intervenir sur les clichés littéraires. Mais donc, je te laisse redire le titre du livre de...
Eh bien, donc, il s'agit des Bouffeurs Anonymes de Marie Aline, qui est paru chez Harper & Collins. Et dont on a abordé les principaux aspects, mais il restera encore bien des choses à explorer, donc je vous invite à le faire vous-même.
Si vous revoyez des choses que vous n'avez pas traitées, vous allez pouvoir les retraiter. On va écouter un morceau de musique, après je vais parler rapidement de ce livre.
Très bien.
Et après vous interviendrez, je vous redonnerai la parole éventuellement. Déjà là, on va écouter un petit morceau de musique. Nous sommes sur Aligre FM 93.1, dans la vie est un roman.
Donne-moi ton cœur, ta main et le reste. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs, chagrin et le reste. Dis-moi qui tu es, qui tu es. J'imagine un monde céleste. Où personne ne sort, non, où personne ne reste. J'imagine un cri, des cris dans la nuit. J'imagine tellement de choses de toi. C'est peut-être toi que je suis des fois. J'imagine un nid de récits, de mots tristes. J'imagine un lit, une insomnie complice. J'imagine une moi qui se noie dans tes vices. Sans foi ni loi, dans les mailles je me glisse. J'imagine un homme, une femme, une nourrice. Qui ne voit qu'un clone de moi dans mes disques. Un gros tintamarre dans mon âme novice. Je vais rentrer tard car je ne vois plus les risques. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. tu es. Dis-moi tes peurs. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es, qui tu es.
Et donc, nous sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et nous devions recevoir Hervé Laroche pour qu'il nous parle du dictionnaire des clichés littéraires. Malheureusement, il doit être indisposé. Donc, le livre est paru chez Arléa tout à fait récemment. C'est une réédition, je viens de le voir maintenant seulement. Voilà ce qui arrive quand on ne lit pas les préfaces d'une réédition d'un livre d'il y a 20 ans. Et donc, c'est un inventaire très fourni de clichés littéraires. Je vous lis la carte de couverture. Tressaillir, utile pour éveiller l'attention du lecteur assoupi. La meilleure manière de le faire, c'est imperceptiblement. À ce mot, il y eut un imperceptible tressaillement. Heureusement, l'auteur veille au grain. Si vous voulez, c'est un inventaire. Ça, c'est comme ça. A priori, ça a l'air extrêmement stimulant. Des lieux communs qu'il y a dans les romans... sentimentaux, dans les romans qui se vendent bien, dans les best-sellers. Hervé Laroche s'attache ici au cliché littéraire qui fleurit aujourd'hui. Il lui règle son compte avec un tel brio qu'on n'ose plus, après la lecture de son livre, prendre la plume, ne serait-ce que pour une banale missive. L'auteur nous ouvre des portes de cet univers littéraire où l'on savoure au lieu de manger, où l'on étanche sa soif au lieu de boire, où les cendres sont encore tièdes, les décombres encore fumants, les chemins semés d'embûches, et les parcours jonchés d'obstacles. Ça fait furieusement penser au dictionnaire des idées reçues, là, puisqu'on vient de parler de critique de Flaubert, donc, puisqu'on vient de parler de critique gastronomique. Voici ce que Flaubert dit, par exemple, au terme critique. Toujours éminent et censé tout connaître, tout savoir, avoir tout lu, tout vu. Quand il vous déplaît, l'appelez Aristarque ou Eunuque. C'est tout de suite excellent, on est absolument bouleversé. J'avais trouvé, mais je ne le retrouve plus, son jugement sur le genre épistolaire, exclusivement féminin. C'est toute la définition qu'il donnait. Donc je pensais au dernier roman qui cartonne de Virginie Despentes, et je me disais que soit elle est au courant et qu'elle l'a fait exprès, soit ça pourrait l'intéresser de voir que Flaubert, qui est un misogyne violent, désapprouvait l'utilisation du genre épistolaire. Enfin, désapprouvait. Donc, jugeait que c'était un genre exclusivement féminin. Il faut reconnaître qu'il était très ami avec George Sand, mais il appelait maître au masculin. Et il écrit à sa maîtresse à propos du dictionnaire des idées reçues, à la formidable Louise Collet, dont nous sommes tous amoureux, grâce à leur correspondance. Il faudrait que dans tout le cours du livre, il n'y eût pas un mot de mon cru, et qu'une fois qu'on l'aurait lu, on n'osât plus parler, de peur de dire une des phrases qui s'y trouvent. C'est une pure merveille, donc. Et donc, le livre d'Hervé Laroche est une actualisation de ce genre de propos en beaucoup plus... Magazine, ça fait beaucoup penser, évidemment, c'est un petit peu le genre du cliché, ça fait penser à des magazines, à des choses assez courantes, hein, ou à des chansons comme celle qu'on vient d'entendre, à des chansons d'amour, à des films très très courants. Alors le livre s'ouvre d'ailleurs par quelque chose qui fait alors vraiment beaucoup penser au magazine. C'est une série d'exercices. Le premier exercice, enrichissez vos styles, remplacez le mot en italique par un cliché. Réponse, page suivante. Ça, c'est ce qu'il y a tout à fait au début. Ensuite, il y a l'exercice numéro 2. Trouvez les clichés. Saurez-vous repérer tous les clichés de ce texte? Réponse, page suivante. C'est plus difficile, donc il y a marqué difficile. Plus difficile. Et donc, l'exercice 3. Osez des clichés audacieux. Je vous donne deux, trois petits clichés. Par exemple, banalité, qui est un cliché au carré, en fait. Je parlais des boules, la boule ou quoi. Voilà, maintenant, je ne retrouve plus banalité. C'est marrant, ça. Ah non, c'est moi qui voulais poser des questions à l'auteur sur la banalité, le truisme, le stéréotype, le poncif, l'esthétisme, l'éthique, l'historique, le sentimental et sauf l'auteur. Mais l'auteur n'est pas là. Donc je vous lis deux, trois définitions. Bataille, la livrer comme une pizza. Elle était résolue à livrer bataille s'il le fallait, l'esprit d'à propos quand même, hein, à propos de culinaire.
Oui, ça c'est un zug maintenant.
Mais je ne sais pas si la pizza entre dans
le propos. Il livrait bataille et sa pizza, enfin, ouais. Tu vois, c'est le zug.
Bataille, la livrer comme une pizza. Elle était résolue à livrer bataille s'il le fallait. Expression délicate qui date d'une époque où les généraux choisissaient le temps et le lieu du massacre et que seule la littérature perpétue. Battleur, il n'y en a plus, mais ça n'empêche pas d'en parler. Par-dessus tout, elle abhorrait ses manières de battleur. À regretter également Camelot, Maquignon, Saltimbanque. Tous mots gourmands, monsieur est un gastronome, je pense. Tous mots gourmands avec trois belles syllabes claquantes, comme on n'en fait plus. Ça gagne à l'oralité, en fait. C'est pas un livre à lire, c'est à lire à haute voix, je pense. Bâtisse. Toujours grosse, grande, imposante, sévère ou trapue. Et souvent vieille. Donc vieille, grosse, grande, importante, sévère et trapue, bâtisse. Une bâtisse se considère de loin. Qu'il s'agisse d'un personnage la découvrant ou de l'auteur qui l'a fait découvrir. C'était une bâtisse imposante, entourée d'un haut mur qui parfois s'écroulait. Pour ceux qui l'habitent, c'est une maison. On n'écrit pas « je vais faire visiter ma bâtisse ». Baume. S'utilise encore en littérature, même au temps de L'Oréal. Toujours en petite quantité. Ses paroles réconfortantes mirent un peu de baume sur ses plaies. L'onguent, moins séduisant, n'est plus qu'un truc de sorcière. Besogne. Toujours rude. On s'y attelle ou on la bat. Il n'y a pas d'autre moyen. Toutes les senteurs de la campagne. Besoin. Le besoin impérieux est le plus intéressant. On lui cède. Il cédait trop souvent au besoin impérieux d'affirmer sa supériorité intellectuelle. Elle est bonne. S'il est d'affection, d'amour, de considération, etc., le combler. Après ce coup du sort, qui pourrait combler son besoin d'affection, hein ? Au pluriel et sans autre précision, il s'agit des besoins matériels. Toujours de la plus basse espèce. On y subvient, il le faut bien. Après ce coup du sort, comment allait-elle subvenir à ses besoins? On ne subvient rien d'autre d'ailleurs. Un côté administratif, réglementaire, Zola avec la sécurité sociale. Bigarré, couleur naturelle de la foule. Blancheur, on ne l'ose plus trop virginale, elle sera donc éclatante. Si blancheur éclatante sans trop la lessive, préférez pâleur ou mieux faire dans le diaphane. Blessé cruellement. Blessure, toujours secrète, profonde, voire les deux. Encore plus intéressante au pluriel. Bien qu'on les pense et les enduise de baume, elles se referment mal et par conséquent se rouvrent souvent. Cet épisode avait laissé en elle de profondes blessures qui ne demandaient qu'à se rouvrir. Blond, mieux que jaune. Le sable blond, la blondeur des blés. Boire, à grands traits, à grande lampée. Sinon, préférer déguster ou savourer. Au figuré, on boit surtout des paroles. Ou alors quelqu'un met des yeux. Pour des boissons plus métaphysiques, préférer s'abreuver ou étancher sa soif. Ça fait penser à ces comptes rendus du Tour de France qui étaient très littéraires dans les années 50, ouais. Les hussards. Là.
Blondin et compagnie.
Blondin et compagnie. Donc ouais. Il y a quelque chose dans le... Ben c'est à cause des chansons. Il y a quelque chose de réconfortant aussi dans le cliché. Il y a quelque chose de nécessaire. C'est très difficile de sortir du code pour... Enfin, il y a... Ça va plus loin, on se moque, mais en fait, le code est nécessaire et le code existe. C'est pas. Alors, il y a Un problème, ceci dit, les gens écrivent trop de livres, il y a beaucoup trop de romans. D'ailleurs, je sors un livre, j'espère, normalement le 15 novembre, qui s'intitule « 37 conseils pour ne pas écrire un livre ». Et donc, évidemment, il y a beaucoup de livres qui comportent de nombreux clichés. Et je pensais peut-être pouvoir faire quelque chose avec ce livre, m'en inspirer, mais... ça a quelque chose d'has-been dans lequel on ne se reconnaît pas. Et évidemment, aussi si on prend cette langue qui est très courante, on a plutôt tendance à argotiser et à aimer les nouveautés. À skip. Hein, mm-hmm. Wesh. Mm-hmm. Hein, grave. Grave, quoi. Mm-hmm. C'est ouf, quoi, ces clichés. Mais, le temps de le dire, il est déjà dépassé. Mais la littérature... Bon, ça n'existe plus, mais dans ma génération, il y avait le photoroman quand j'étais jeune, et qui était générateur évidemment de nombreux clichés. Il les collectionne, il les utilise. Ou alors on peut prendre. C'est absolument horrible. Ça, c'est... Il y a un type d'ailleurs qui est très connu pour ça, je ne l'ai pas lu, j'étais déjà trop vieux, mais le genre pornographique. Quand Union, le magazine, est sorti, le langage était un langage 18e siècle, kitschissime, absolument répugnant, c'était totalement illisible, et c'était censé être des lettres de lecteur. Donc je souffrais énormément en pensant au journaliste qui était dans une pièce et qui écrivait toutes ses lettres avec son dictionnaire des termes utilisés par le marquis de Sade. J'aime ton vie, je ne sais pas, mais enfin, c'est des trucs, c'est absolument épouvantable. Et Esparbeck, il y a un auteur qui s'appelle Esparbeck, dont la réputation vient d'avoir renouvelé totalement le vocabulaire. Et il a écrit, donc il est mort il n'y a pas longtemps, et il a écrit 80 livres, enfin comme ils font ces gens, dans ces genres populaires, 80 livres pornographiques avec un vocabulaire moderne. Et il est très connu chez les amateurs de ces choses. Et la question du vocabulaire est importante, j'imagine. Par exemple, pour moi qui ne le suis pas, les gastronomes sont des gens hyper exaspérants.
C'est vrai, et c'est hyper compliqué de réussir à renouveler le champ lexical à
surtout
utiliser.
Que c'est le goût travail. Le goût au pédantisme. Par exemple, donc j'achète du thé au Palais du Thé, je me fais offrir par un copain des thés assez chers, et il n'y a pas de rapport entre ce qui est marqué sur l'étiquette et ce que je bois, c'est pratiquement...
En fait, c'est par essence hyper subjectif, le goût, donc forcément, ce qui est écrit sur l'étiquette n'est pas ce que vous goûtez dans votre palais.
Hein. Mais c'est quand même très intéressant, et c'est absolument passionnant, donc le dictionnaire des clichés littéraires de M. Hervé Laroche est évidemment...
Mais ce qui est marrant, là dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que le cliché, au moment où on écrit, il y a des phrases qui viennent automatiquement. Évidemment, quand on écrit, on se retient de les écrire et on se dit bon, comment est-ce que je vais réussir à contourner ce cliché? Et puis il y a aussi des moments où on se dit mais en fait, ce serait pas mal de laisser cette phrase qui va réconforter le lecteur dans sa lecture, qui va le reposer, mais une demi-seconde. Hein. Après, ça peut être tourné en dérision, d'ailleurs. Et parfois, le cliché peut aider à faire une petite blague, à faire rire le lecteur aussi. Il peut être détourné.
Et c'est vrai, c'est rassurant. Ça veut dire que le lecteur a compris, peut-être. Enfin, parce que des fois, on peut douter, typiquement, sur certains papiers, sur certains restos, dont on cherche en fait, à savoir un petit peu ce que c'est, simplement. Mmh. Et tout à coup, une petite phrase très convenue, justement, c'est un signal de fraternité, c'est un petit code. Et on se dit, tiens, oui, d'accord.
Okay. Mais même dans l'écriture de romans, hein. Enfin, je pensais, en disant ça, je pensais plus à l'écriture de romans. C'est-à-dire que peut-être que le cliché peut être un moment de repos qui permet de partir ensuite en fusée vers des choses qui vont étonner le lecteur, en fait. Mais comme il se sera reposé un petit peu, c'est comme un petit oreiller, petit tapis de réception.
Un niveau, c'est ça.
Alors ?
Vous n'êtes pas Monsieur Laroche ? Ah, mais c'est la prochaine émission. Je suis à vous dans 5 minutes. Et donc, je croyais que M. Laroche arrivait. Mais alors moi, j'ai par exemple, comme j'étais très avant-garde, je retournais les clichés dans l'autre sens, mais ça donne C'est une espèce de harne caractérielle, en fait, qui est dirigée contre la communication, et c'est une impasse. Enfin, c'est mon bilan. Maintenant, la fin de mes jours, c'est mon bilan. J'aurais mieux fait de travailler les clichés. Et par exemple, on voit bien dans Madame Bovary comme cette jouissance à utiliser les clichés, à en faire quelque chose. Ils sont présents. Ils sont simplement servis avec. Il faudrait utiliser un langage culinaire. Enfin, c'est des courbouillons. Ils ont été cuisinés. Ils sont mis en valeur. Je sais pas, quand elle dit que son mari est aussi marrant qu'un trottoir ou des choses comme ça. Il y a des images très fortes. Il avait autant d'idées que le bord du trottoir. Mais on voit la chose et on voit le cliché, comme le cliché a été enfermé et prend un potentiel énorme de sublimation comme ça.
Ça ressemble presque à un détournement, parce que c'est ce que vous allez...
Oui, je pourrais le dire par exemple dans cette chose, ce rejet, cette espèce de faute de goût qu'est la poésie aujourd'hui, le rejet spontané qu'on a par rapport à toute expression poétique, parce que son kitsch est trop fort, son kitsch, est justement, ce refus des clichés est un surcliché qui est extrêmement gênant, et on est gêné pour la personne, comme on dit en langage jeune aujourd'hui.
Mmh. Ouais, ouais.
C'est gênant.
Ouais, c'est une gênance, même.
C'est terrifiant. Ouais. Un récital de poésie, c'est quelque chose de terrifiant. C'est pire qu'un film d'horreur.
Parce que ça peut procurer des émotions. En fait, c'est aussi ça. Le cliché peut procurer une émotion un peu mièvre, dont on peut avoir peur, ou même dont on peut avoir envie de se prémunir, parce qu'on n'a pas envie d'être naïf ni mièvre.
Ouais. Et vous vouliez encore ajouter deux, trois choses sur le roman culinaire, là, vous aviez encore...
Écoute, si tu...
Je ne me rends pas compte que c'est le temps qui nous reste, mais on est...
Non,
on est à 2 minutes de la fin, c'est ça? Oui, bah, non, mais alors on va arrêter là, je pense.
Oui, je pense, parce qu'on ne va pas improviser.
On ne va pas en faire trop.
Oui, on peut.
Et donc, nous étions sur Aligre FM 93.1. Nous avons parlé de choses passionnantes. Et on peut passer le deuxième morceau, si tu veux. Et merci d'être venu.
Can
chaos.